Terroir Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour le monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du lundi 13 novembre 2023. L'ex-premier ministre ivoirien Guillaume Soro est au Niger. Il a été reçu par le général Abdourahmane Tiani. Les Libériens retournent aux urnes demain pour le second tour de l'élection présidentielle qui s'annonce serrée entre George Weah et Joseph Boakai. Les représentants de 5 opposants de la République démocratique du Congo sont en conclave en Afrique du Sud avant les élections de décembre. Au Kenya, le monde fait bloc contre la pollution plastique.
Mais d'autres plastiques qui ne sont pas visés par la loi en vigueur mettent environ 400 ans pour disparaître. Un désastre pour les associations pour la protection de l'environnement.
Défi également pour le Burkina Faso avec les déchets plastiques qui font des dégâts dans les villes. Reportage à suivre dans la partie magazine. L'ONU menace de cesser ses opérations humanitaires à Gaza, faute de carburant. Ne manquez pas notre page fort ainsi que la minute court pour l'instant le journal. L'ancien premier ministre ivoirien Guillaume Soro, qui a annoncé dimanche vouloir mettre fin à son exil, entamé en 2019, a rencontré ce lundi au Niger le général Abdourahmane Tiani, arrivé au pouvoir en juillet. Alexandrine Ologon.
J'ai eu l'honneur d'être reçu ce jour en audience par le président de la transition du Niger, chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani, accompagné du général Salifou Modi, ministre de la Défense, et du général Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur, a déclaré Guillaume Soro sur son compte X. L'entretien, qui a duré 1h30, a été exceptionnel par la qualité, a-t-il poursuivi. Plus tôt dans la matinée, Guillaume Soro a annoncé se trouver à Niamey depuis samedi. Il a déclaré dimanche au soir mettre fin à son exil, indiquant qu'il lui est pénible de vivre loin de sa terre ancestrale et natale d'Afrique. Ancien chef rebelle, ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne et ancien premier ministre, Guillaume Soro n'a pas précisé de date pour son éventuel retour en Côte d'Ivoire. Il a été condamné en 2020 en son absence à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics en Côte d'Ivoire, puis à perpétuité un an plus tard pour atteinte à la sûreté de l'État.
En Guinée, le procès historique du massacre de septembre 2009, a repris. Ce lundi à Conakry, un peu plus d'une semaine après l'opération Commando pour sortir de prison l'ancien dirigeant militaire Moussa Dadis Camara, des hommes armés l'ont extrait brièvement de prison. C'était le 4 novembre dernier. Le raid a fait au moins 9 morts selon le parquet général. 3 des accusés, dont Moussa Dadis Camara, ont été repris le même jour. L'un d'eux, le colonel Claude Puvis, est toujours en cavale. La Guinée offrant plus de 50 000 dollars pour toute information pouvant conduire à sa capture. Au Libéria, les électeurs sont appelés aux urnes demain mardi pour choisir entre le président sortant, l'ex-star du football, George Weah, et le vétéran de la politique, Joseph Boakai. Il s'agit du second tour d'une élection présidentielle dont le déroulement pacifique est l'un des grands enjeux. Mouamadou Mfa.
Selon la commission électorale, les bureaux de vote seront ouverts entre 8h et 18h, heure locale et GMT. George Weah, 57 ans, espère obtenir un deuxième mandat malgré un bilan critiqué. Toujours populaire chez les jeunes, il met en avant son action en faveur de l'éducation et de l'électrification des foyers, de la construction des routes et d'hôpitaux. Il promet de continuer à œuvrer au développement de son pays. Face à lui, il aura Joseph Boakai, 78 ans, ce ténor de la politique libérienne qui a été vice-président d'Ellen Johnson Sirleaf de 2006 à 2018, propose un plan de sauvetage national. Il promet d'améliorer les infrastructures et de redorer le blason du pays. Alors qu'il s'était largement incliné il y a 6 ans, il talonne cette fois le président sortant. Les deux ont obtenu environ 43% des voix au premier tour. L'entre-deux-tours a surtout consisté pour les deux camps à obtenir les ralliements, à commencer par les électeurs des 18 autres candidats, dont aucun n'a atteint 3%. La commission électorale aura 15 jours pour publier les résultats, mais l'affaire pourrait prendre moins de temps, selon l'un de ses responsables.
Au Gabon, le pouvoir militaire a annoncé aujourd'hui que des élections présidentielles et législatives auront lieu en août 2025. Ce chronogramme adopté en Conseil des ministres a été proposé à titre indicatif et doit encore être soumis à une conférence nationale incluant toutes les forces vives de la nation prévue en avril 2024. Des émissaires de 5 leaders de l'opposition de la République démocratique du Congo sont arrivés en Afrique du Sud pour discuter discuter d'une éventuelle position commune en vue des élections du 20 décembre. John Lindon.
Avec une élection à un seul tour, une candidature commune serait souhaitable pour éviter la dispersion des voix de l'opposition face au président Félix Tshisekedi, candidat à un nouveau mandat de 5 ans, a indiqué l'un des émissaires qui a souhaité rester anonyme. Un autre participant préfère évoquer dans un premier temps la recherche de mécanismes communs pour éviter la fraude. Nous n'esquivons pas le débat sur une candidature commune, mais ce qu'il faut surtout, c'est la vérité des urnes, a-t-il déclaré. Les discussions à Pretoria sous l'égide de l'ONG sud-africaine In Transformation Initiative pourraient durer jusqu'à vendredi. 26 candidats sont en lice pour la présidentielle du 20 décembre, élection couplée aux législatives provinciales et municipales. Les 5 candidats à la présidentielle représentés à ces discussions à Pretoria sont l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo, le député Délé Desanga et le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, une attaque a fait au moins 19 morts, tous des civils. Maurice Mabele Mosaidi, un responsable de la société civile et un porte-parole de l'armée, ont imputé les meurtres hier dans la chefferie de Ouattalinga, dans le territoire de Béni, aux forces démocratiques alliées qui a fait allégeance au groupe État islamique. Le chef d'un groupe rebelle en Ouganda a été inculpé aujourd'hui de terrorisme et meurtre après l'attaque mortelle le 17 octobre d'un Britannique et d'une Sud-Africaine en voyage de noces ainsi que leur guide dans le parc Queen Elizabeth. Abdul Rachid Kyoto Di Njovu a été inculpé de terrorisme, meurtre, vol aggravé et appartenance à une organisation terroriste. Il a été arrêté début novembre lors d'une opération de l'armée ougandaise. 2 autres membres du commando ont été tués tandis que les autres ont réussi à s'échapper. À 3 jours de la présidentielle à Madagascar, 6 candidats influents de l'opposition, dont 2 anciens présidents, ont déclaré aujourd'hui qu'ils ne participeront pas au scrutin et appelleront les Malgaches à ne pas se rendre aux urnes. La présidentielle initialement prévue le 9 novembre a été déjà reportée d'une semaine à la suite de la blessure d'un candidat lors d'une manifestation de l'opposition. La présidente de l'Assemblée nationale a appelé à la suspension du scrutin, mais le camp du président sortant a rejeté cette idée qualifiée de farfelue. Et les négociateurs qui travaillent sur le premier traité mondial visant à réduire la pollution plastique doivent se dépêcher de conclure un accord, a déclaré le président du Kenya, William Ruto, lors de l'ouverture ce lundi des négociations à Nairobi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens à Gaza a prévenu ce lundi que les opérations humanitaires cesseront sous 48 heures faute de carburant à Gaza. Abdourahman Dia.
Thomas White a indiqué sur le réseau social X que 2 des principaux sous-traitants pour la distribution d'eau ont cessé de travailler car ils n'ont plus de carburant, ce qui va priver 200 000 personnes d'eau potable dans le territoire où plus de la moitié des 2,4 millions d'habitants sont déplacés et dépendent totalement de l'aide humanitaire pour survivre. L'agence onusienne a également rapporté qu'un de ses locaux à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza où s'entassent 1,5 million de déplacés, a subi d'importants dégâts après 3 frappes directes de la marine israélienne dimanche. Des employés de l'ONU à Rafah avaient quitté ce bâtiment 90 minutes avant cette frappe, rapporte l'agence qui précise qu'il n'y a eu aucune victime parmi ses employés. Un responsable du Hamas indique que tous les hôpitaux du nord de Gaza sont hors service. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que l'armée israélienne a offert du carburant à l'hôpital Al-Shifa, mais que le Hamas l'a empêché. Par ailleurs, les chars israéliens resserrent chaque jour l'étau sur le nord de la bande de Gaza et en particulier sur la ville de Gaza.
Le président américain Joe Biden va demander à son homologue indonésien Joko Widodo qu'il reçoive à la Maison-Blanche de peser davantage en faveur d'une résolution du conflit Israël-Hamas. Cette rencontre à l'origine visait à serrer les rangs avant la rencontre entre M. Biden et son homologue chinois Xi Jinping mercredi à San Francisco en marge d'un sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique APEC, M. Biden soutient fermement Israël et M. Widodo est à la tête du plus grand pays musulman du monde. Et puis une minute de silence et drapeau en Berne, l'ONU a rendu hommage aujourd'hui à ses plus de 100 collaborateurs tués dans la guerre entre Israël et le Hamas. Le secrétaire général de l'ONU avait demandé qu'une minute de silence soit observée dans les lieux où l'organisation dispose d'une représentation. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Alexandrine Ollognon.
Les négociations internationales ont débuté au Kenya pour discuter de mesures concrètes contre la prolifération de déchets qui inondent la nature. Les délégations de 175 pays y prennent part. La réunion de Nairobi est la troisième des cinq sessions d'un processus accéléré visant à conclure les négociations l'année prochaine. Après la capitale kenyane, les négociations doivent se poursuivre en avril 2024 au Canada pour se conclure en Corée du Sud. Ici aux États-Unis, les banques utilisant l'application de paiement Zelle ont commencé à rembourser les victimes d'escroqueries afin de répondre aux préoccupations en matière de protection des consommateurs soulevées par les législateurs américains. Les 2100 sociétés financières membres de Zelle ont commencé à inverser les transferts à partir du 30 juin pour les clients qui ont été dupés et ont envoyé de l'argent à des escrocs prétendant être d'une agence gouvernementale, d'une banque ou d'un prestataire de services existant.
Place maintenant au sport avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonjour Jean-Roger, bonjour à tous.
Les Sundowns, vainqueurs du Wydad, remportent la première ligue africaine de football.
Oui, le club africain des Mamelodi Sundowns a remporté donc la première édition de la Ligue africaine de football en battant le Wydad de Casablanca 2-0. C'était en finale retour ce dimanche à Pretoria. Les Sundowns qui s'étaient inclinés 2-1 une semaine plus tôt au Maroc ont refait leur retard grâce à des buts de Peter Chaloulil à la 45e minute plus 3, et Dobré Modiba à la 53e. L'équipe de Pretoria, déjà lauréate de la Supercoupe de la CAF il y a 6 ans, s'adjuge ainsi le premier trophée de cette compétition lancée cet automne. Et richement doté, le vainqueur devant encaisser un chèque de 4 millions de dollars pour cette première édition. 8 clubs parmi les plus prestigieux du continent se sont affrontés en match à élimination directe aller-retour, des quarts jusqu'à la finale et le sacre des Sundowns. La Confédération africaine envisage de l'étendre à 24 clubs pour la saison 2024-2025.
NBA, les Spurs de Wembanyama battus par Miami. Maxi porte les Sixers avec 50 points.
Oui, malgré un bon début, les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, auteur de 18 points, ont été battus à domicile ce dimanche par le Heat de Miami, 118-113, alors que Tyrese Maxey a signé un record en carrière de 50 points pour mener les Sixers à la victoire contre les Pacers, 137-126. Keldon Johnson et Zach Collins ont respectivement apporté 20 et 18 points. Menant de 19 unités dans le deuxième quart-temps, les hommes de Greg Popovich ont fini se faire remonter en commettant trop de fautes et en concédant 17 pertes de balles contre seulement 4 pour leurs adversaires. Du côté de Miami, Duncan Robinson a marqué 26 points et Bam Adebayo a ajouté 24 points et 11 rebonds. Le Heat, toujours privé de Tyler Hero, blessé, et Kyle Lowry a réussi à renverser la vapeur pour emporter une cinquième victoire consécutive.
Football, des milliers de Mancuniens rendent un dernier hommage à Bobby Charlton.
Et on revient donc en foot avec ces milliers de personnes qui ont envahi ce lundi les rues de Manchester, bravant la grisaille et le crachin pour rendre un dernier hommage à Sir Bobby Charlton, l'une des légendes des Red Devils, décédé le mois dernier à l'âge de 86 ans. Le corbillard transportant à travers la ville le cercueil du célèbre joueur jusqu'à la cathédrale de Manchester a été chaleureusement applaudi sur son passage par la foule nombreuse. Sur son itinéraire, le cortège est passé devant plusieurs lieux emblématiques intimement liés à la carrière du footballeur.
Page des sports VOA Afrique signée Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Bénin, l'ex-chef d'État Boni Yayi fait son comeback sur la scène politique. Il y a quelques semaines, il a été élu président du parti Les Démocrates, une élection qui le propulse chef de file de l'opposition, puisqu'aux dernières législatives, le parti s'est arrogé près d'une trentaine de sièges. Les Béninois apprécient diversement ce retour de Boni Yayi. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
La carrière musicale de l'ancien président Boni Yayi n'aura duré que quelques mois, quelques singles et le revoilà en politique et pas n'importe quel poste. Il est le président des démocrates, le plus grand parti de l'opposition. S'il était devenu chanteur parce qu'il a répondu à un appel divin, il a su qu'il revient sur la scène politique pour la gloire de Dieu.
Prendre en main la mission historique qui incombe aujourd'hui aux démocrates, parti du peuple, aussi mieux que par le passé. Devions-nous nous atteler à rallier toutes les forces politiques de l'opposition, les unir, les fortifier pour mener ensemble le combat de restauration de la démocratie.
Ce retour n'est pas du goût de certains qui y voient un moyen de prendre sa revanche après tout ce qu'il a subi à la fin de ses deux mandats constitutionnels à la tête du Bénin.
Nous sommes un peu fatigués de combattre deux personnes pour un pays. Donc que les deux puissent au moins entrer en eux-mêmes et savoir qu'on a un pays à gérer, ils ont un pays à gérer, ils ont l'obligation de tout faire pour que la paix demeure dans le pays.
Moi je voudrais que Boni Yayi démontre sa bonne foi dans la politique en disciplinant d'abord les députés de la minorité parlementaire. Moi j'attends de Boni Yayi en tant que président du parti Les Démocrates qu'il fasse avancer la démocratie de notre pays. Qu'il me le permette, moi je ne crois plus en ses paroles parce que quand il quittait le pouvoir, il nous a dit oubi et orbi qu'il deviendrait pasteur et qu'il allait se consacrer à l'œuvre.
Mais pour d'autres, on ne saurait priver l'ancien président de son droit à contribuer à l'animation de la vie politique.
C'est un sentiment de joie, de fierté et surtout d'espérance.
Aujourd'hui, avec Yayi Boni à la tête du parti, on ne peut mieux espérer. De toute façon, même bien qu'il n'était pas à la tête de ce parti, il a tout fait pour ce parti. Aujourd'hui, ce n'est que justice qu'il se retrouve à la tête du parti. Je crois que l'accompagnement sera total.
Ça fera du bien au pays, d'autant plus que le pouvoir actuel va chercher à mieux se préparer, à parfaire son mandat, à gagner aussi des points au niveau des populations. Le pouvoir actuel n'a plus droit à l'erreur pour pouvoir se justifier, et surtout en 2026.
Ainsi repositionné sur l'échiquier politique, l'ancien président Boni Yayi porte désormais la voix de l'opposition au régime du président Patrice Talon. Pour l'acteur politique Richard Boni, c'est ce qui pouvait arriver de mieux à l'opposition béninoise.
Ça part relativement de trois observations. C'est qu'il en a totalement le droit, constitutionnellement. C'est qu'il ne peut pas se faire une fois de plus en parlant de ce parti. Il faut quand même une personne assez charismatique, telle que Yayi Boni, pour éviter tous les démois qu'on a connus dans les élections passées.
Sur la question de l'opportunité ou non de cette position de l'ancien président, le gouvernement, à travers son porte-parole, a déclaré que cela n'avait rien de surprenant. Pour Wilfred Léandre Rumbedi, Boni Yayi n'a jamais été bien loin de la scène politique. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, les déchets plastiques posent problème. Malgré une loi qui interdit l'importation et la production, les sacs en plastique continuent de polluer les rues du pays. De nombreuses associations et organisations sont nées pour lutter contre ces déchets plastiques. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Depuis 2014, la loi portant interdiction de la production, de l'importation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables a été adoptée. 9 ans après, les sachets plastiques continuent de joncher les rues de plusieurs villes du pays. Selon le gouvernement, les sachets qui sont communément utilisés et autorisés sont ceux qui se dégradent au bout de 5 ans parce qu'ils ont été réadaptés. Mais d'autres plastiques qui ne sont pas visés par la loi en vigueur mettent environ 400 ans pour disparaître. Un désastre pour les associations pour la protection de l'environnement. Faïza Adjadion, experte en évaluation, gestion des risques et impacts sociaux, coordonnatrice de l'association Mère Nature.
L'association Mère Nature est née le 11 juin 2021 avec comme objectif principal la préservation de l'environnement, tout comme la préservation de l'avenir des générations futures. Nous intervenons principalement autour de 4 axes, c'est-à-dire l'éducation environnementale, la gestion des déchets et assainissement, recyclage, l'énergie renouvelable et l'entrepreneuriat environnemental. Pourquoi avoir fait de ce combat notre cheval de bataille? Tout simplement parce que, en tant que femme, c'est notre manière à nous de laisser un avenir, un environnement sain pour nos enfants, nos futurs enfants.
Aboubakari Soura est aussi environnementaliste. Il est conseiller de l'association Chérifa qui fait dans le recyclage des déchets plastiques.
Nous sommes une association qui œuvre pour la protection de l'environnement. Nous faisons de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets plastiques en des objets utilitaires, notamment les seaux, les bassines, les brosses à laver. Également, nous faisons la presse des déchets en balles. On fait du broyat également, des déchets de plastique dur que nous exportons vers les pays voisins, notamment le Mali et le Ghana. Mensuellement, on peut transformer environ 200 tonnes de déchets plastique.
Le conseiller technique du président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Sidi Mahamadou Cissé, dans une interview au quotidien d'État Sidoya, a expliqué que la ville de Ouagadougou génère annuellement 600 000 tonnes d'ordures ménagères avec environ 15% de déchets plastiques, soit environ 90 000 tonnes de déchets plastiques et chaque jour, elle produit 1 600 tonnes environ. Le gouvernement, à travers le ministre de l'Environnement, affirme qu'il a déployé une batterie de mesures pour que la loi sur les sachets plastiques soit appliquée. Il ajoute qu'il a fait application d'un taux de 5% sur la valeur ajoutée de l'importation et la fabrication des sachets plastiques biodégradables. Pour la quantité de sachets plastiques importés, le gouvernement dit avoir autorisé 120 000 tonnes de sachets plastiques en 2021. Cette taxe a permis, selon le ministre, de collecter 800 millions de francs CFA en 2022 et plus d'un milliard en mai 2023. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Gabon, l'écrivain tchadien Nadji Kimo Benoudjita vient de présenter deux ouvrages à Libreville, Manteau de sang sur le Mandoul et Tchad, l'impossible cohabitation pacifique nord-sud. Les deux livres examinent la gouvernance politique et les rapports conflictuels entre les communautés nord et sud du Tchad. Le point avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Nous sommes arrivés à un paroxysme de situation politique inextricable.
L'impossible cohabitation pacifique nord-sud de l'écrivain tchadien Nadji Kimo est un essai politique motivé par la création presque artificielle de son pays. Selon lui, il s'agit d'un des difficiles héritages de l'ancienne colonie française.
Les Tchadiens ont été forcés, comme la plupart des populations d'Afrique noire, francophone ou bien même colonisées, ont été forcés de rester ensemble, de se construire un espace politique. Les élites tchadiennes, principalement. Les élites tchadiennes en ont été incapables, parce que ce sont les élites qui sont en partie responsables, même si elles sont instrumentalisées.
Un diagnostic froid et incisif sur une situation post-indépendance, à l'origine d'interminables conflits qui jalonnent encore l'histoire du Tchad moderne. Béatrice Tchadienne de mère gabonaise se sent interpellée par le contenu de l'ouvrage.
Moi qui suis plus ou moins sudiste, mais qui ai vécu et grandi dans le nord, je n'ai fait que toute ma vie cohabiter avec des nordistes. Et aujourd'hui, si je vois comment les sudistes se sont lésés, je me demande où est ma place, moi qui me sens quelque part nordiste.
Sous la plume de Nadji Kimo Benoudjita, les réalités du Tchad se retrouvent un peu partout sur le continent. Gervais Bongangoma, journaliste gabonais.
Il y a parfois le choc des cultures qui empêche une saine cohabitation entre différentes communautés ethno-linguistiques. Si on ajoute à cette réalité l'accaparement du pouvoir, parfois par certains groupes sociolinguistiques, ça pose un réel problème.
Un problème plus accentué par une mauvaise gouvernance politique et qui amène l'auteur tchadien à alerter sur les risques d'implosion du pays. Au comité de l'État à la retraite, Jean-Prosper Moussouami s'oppose au phénomène de partition des pays africains.
Je pense que nous avons tous pris conscience du fait que nous avons besoin que l'Afrique soit une. Et il faut réfléchir dans le sens de dire comment peut-on faire, malgré les difficultés que l'on observe aujourd'hui, pour aller dans le sens de cette unité de l'Afrique.
Enseignant et journaliste dont 20 ans d'exercice au Gabon, Nadji Kimo Benoudjita consacre sa retraite à l'écriture au Canada où il réside. Auto-éditeur, Il est à son sixième ouvrage. Ismaël Obionze, VOA Afrique, Libreville.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En soulignant que son pays poursuivrait ses opérations militaires à Gaza jusqu'à la défaite du Hamas, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a évoqué dimanche les spéculations sur un éventuel accord visant à libérer plus de 200 otages kidnappés par le groupe militant le 7 octobre. Véronica Balderas Iglesias de la VOA a les détails, le récit avec Abdourahman Diab.
Au lendemain d'une réunion d'urgence en Arabie Saoudite, ayant regroupé des dizaines de dirigeants arabes qui ont fermement condamné l'offensive militaire israélienne à Gaza, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, s'est exprimé sur la chaîne ABC pour souligner la position des États-Unis sur la guerre de Tel Aviv contre le Hamas.
Nous croyons à l'importance du droit humanitaire international, ce qui implique de prendre toutes les mesures possibles pour protéger les civils. Dans le même temps, nous continuerons à soutenir la proposition selon laquelle Israël a le droit de se défendre contre les attaques terroristes.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, interviewé dimanche sur CNN, a réagi sur le sujet.
Je pense que toute perte civile est une tragédie et la faute devrait être directement imputée au Hamas, car il les empêche de quitter la zone de guerre, parfois au bout du fusil. Le Hamas a tiré sur la zone de sécurité et sur le couloir de sécurité que nous avons mis en place.
Par ailleurs, Netanyahou a évoqué les spéculations sur un éventuel accord pour la libération des otages kidnappés par le Hamas le 7 octobre. Il s'est exprimé dans l'émission Meet the Press de NBC.
Le travail extraordinaire accompli par Saal, faisant pression sur les dirigeants du Hamas, c'est la seule chose qui pourrait créer un accord. Et si un accord est disponible, nous en parlerons lorsqu'il sera là. Nous l'annoncerons si cela est réalisé.
Le premier ministre israélien a ajouté qu'une fois la guerre terminée, la responsabilité sécuritaire globale de Gaza restera entre les mains d'Israël, mais qu'il est trop tôt pour déterminer qui gouvernera le territoire.
En ce qui concerne une gestion civile de Gaza, nous devons voir les deux choses suivantes. Gaza doit être démilitarisé et Gaza doit être déradicalisé. Et je pense que jusqu'à présent, nous n'avons vu aucune force palestinienne, y compris l'autorité palestinienne, capable de le faire.
Pendant ce temps, sur le terrain, les civils palestiniens continuent de fuir le nord de Gaza, alors que plusieurs agences des Nations Unies ont appelé à un arrêt immédiat des attaques contre les hôpitaux.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Joselle Mauritain. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.